Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire de ce tout dernier numéro de la saison, la deuxième plus grosse levée de fonds de toute l'histoire de la French Tech, 600 millions de dollars levés par Content Square. Un tour de table qui intervient après un excellent premier semestre en matière de levée de fonds pour nos startups. Et c'est le cas notamment de Kinetix qui a levé 11 millions de dollars en mai dernier. Kinetix qui permet notamment de transformer des vidéos en personnages 3D. On est là clairement au cœur du métavers et des mondes virtuels. Pour nous expliquer tout cela, eh bien, c'est en réel et bel et bien en réel que je vais recevoir dans un instant Yacine Tahi, le cofondateur de Kinetix. Et à ses côtés, Coralie Chauffour, directrice générale d'Entrepreneur First France. C'est grâce à Entrepreneur First que Yacine Tahi a pu créer son entreprise et trouver son cofondateur. Enfin, direction les Cévennes pour terminer l'émission et terminer la saison. Nous serons en duplex de la célèbre bambouseraie d'Anduze dans le Gard. Nous parlerons un peu de botanique, mais surtout de business et de transmission familiale de ce magnifique site inscrit aux monuments historiques. Alors à droite sur votre écran, si vous nous suivez en télévision, Muriel Nègre, l'actuel président de la bambouseraie. Et à gauche, sa fille Valentine Crouzet, qui va bientôt prendre les rênes d'une entreprise familiale créée en 1850. 56. Mais avant tout cela, donc, un crochet par l'actualité de la semaine avec, je vous le disais en titre, la deuxième plus grosse levée de toute l'histoire de la French Tech. 600 millions de dollars levés ce jeudi par Content Square, qui fait déjà partie depuis longtemps du cercle des licornes françaises. Le record est toujours détenu par Sorar et ses 680 millions levés en octobre dernier. Il s'agit en tout cas du sixième tour de table pour Content Square, dont le cœur d'activité est d'analyser les comportements des consommateurs en ligne et in fine d'augmenter le chiffre d'affaires des acteurs du e-commerce. Les explications sont signées Thomas Schnell.
La plateforme capable d'analyser le comportement des utilisateurs sur un site poursuit son ascension. Après avoir décroché le record de levée de fonds dans la French Tech l'an dernier, Content Square remporte son sixième tour de table avec un financement composé de 400 millions de dollars en fonds propres et 200 millions de dollars en dette. La licorne française aux 1500 collaborateurs vend des outils logiciels permettant aux propriétaires de sites et d'applications de maximiser leur taux de conversion et donc de faire gonfler leurs recettes. BMW, Rakuten, Sephora, Gucci ou Ikea, notamment les utilise. Dans un contexte d'explosion des ventes en ligne depuis la pandémie, l'entreprise verrait son chiffre d'affaires doubler chaque année. Depuis la dernière levée de fonds record en mai 2021, la valorisation de Content Square a doublé, atteignant désormais 5,6 milliards de dollars. La levée de fonds menée par la société d'investissement américaine Sixth Street a vu la plupart des investisseurs déjà présents remettre au pot. Parmi eux figurent les fonds français Eurazeo et BPI France ou encore les fonds américains KKR et BlackRock.
Alors ce chiffre de plus 600 millions sera comptabilisé dans les levées de fonds du second semestre 2022. C'est de très bon augure après déjà un excellent bilan au premier semestre puisque nos startups en effet ont levé 8,4 millions d'euros en 6 mois. Des chiffres en forte hausse alors qu'ils sont stables voire en recul dans la plupart des autres pays. Ces chiffres font en tout cas partie du baromètre EY. On va écouter Franck Sebag associé chez EY dans un instant. Mais tout d'abord Valentin Gris nous détaille ce très bon semestre pour la French Tech. Semestre au cours desquels 6 entreprises françaises sont devenues de nouvelles licornes.
6 nouvelles licornes et des chiffres records. Les startups françaises ont levé 8,4 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 3 milliards de plus que l'année précédente. Elles sont désormais 27 licornes, c'est-à-dire valorisées au-delà d'un milliard d'euros. Leader cette année, Conto, Ecovadis ou encore Backmarket et leur levée de fonds supérieure à 400 millions d'euros. Plus globalement, les opérations dans le domaine de l'informatique triplent, dépassant les 2 milliards d'euros, tout comme les fintechs. Les cleantechs, tournés vers l'écologie, ont aussi le vent en poupe et flirtent avec le milliard d'euros récolté. Si l'essentiel des opérations se concentre encore en région parisienne, la région PACA et la Nouvelle-Aquitaine sont dynamiques. Les Hauts-de-France s'adjugent la deuxième place, à la faveur des 335 millions d'euros levés par le spécialiste de la robotique Exotech. À l'échelle européenne, la France dépasse l'Allemagne sur le premier semestre, mais demeure très loin du Royaume-Uni, place forte des fintechs et qui a levé plus de 18 milliards d'euros.
En fait, lorsqu'on regarde les chiffres de manière internationale, on se rend compte que dans le monde, l'investissement dans les startups a baissé de 12%. Donc finalement, lorsqu'on regarde l'Europe qui a baissé de 1,5% et que l'on voit que la France a des investissements qui progressent de 63%, on peut quand même se réjouir du fait que nous ayons pas de ralentissement en France. Je pense qu'on est rentré dans structurellement dans une attractivité forte de la France vis-à-vis de la technologie. Donc nous avions il y a quelques années en fait une faiblesse et aujourd'hui la France est vraiment le pays en Europe continentale qui attire le plus d'investissements. Donc moi je parlais plus de raisons structurelles qui aujourd'hui nous amènent à ces résultats.
Qu'est-ce qui explique ce dynamisme?
C'est un dynamisme d'ailleurs qui nous a un peu surpris. On pensait que nous aurions un deuxième trimestre qui serait en net recul et finalement la French Tech en fait n'arrête pas de grandir. Ce qui explique, c'est principalement la très bonne tenue des opérations supérieures à 100 millions d'euros, ce qu'on appelle nous le gross equity. On en a eu plus de 20 opérations supérieures à 100 millions d'euros, donc quasiment un doublement par rapport à l'an passé. Et finalement, ça vient tirer toute la croissance de l'investissement dans la French Tech.
Et quoi de mieux que ces excellents chiffres de la French Tech pour parler d'entrepreneurs first. Bonjour Coralie Chauffour.
Bonjour.
Et bonjour Yacine Taï.
Bonjour.
On va parler donc avec vous deux d'entrepreneurs first, un programme d'accompagnement qui existe depuis 2011 au Royaume-Uni et depuis 4 ans en France. Vous en êtes, Coralie Chauffour, la directrice générale pour la France. Mais tout d'abord, ces bons chiffres de la French Tech, on va les commenter. Et on a parlé de Content Square il y a quelques instants. Il se trouve qu'il y a un lien avec entrepreneurs first.
Racontez-nous cela. Oui, exactement. Alors le lien avec entrepreneurs first, c'est qu'il y a une start-up issue du premier programme qu'on a lancé à Paris en 2018, la première cohorte qu'on a lancée, les pionniers d'Entrepreneur First à Paris, qui a été rachetée par Content Square l'année dernière. Donc c'est une start-up qui s'appelle Upstride.
Voilà, ouais. Et qui fait quoi ?
Et qui faisait de l'analyse de performance, l'augmentation de performance en utilisant le deep learning. Donc c'est les réseaux de neurones de l'intelligence artificielle pour améliorer la performance. Et l'équipe Upstride est venue renforcer les capacités d'intelligence artificielle de Content Square.
Et plus globalement, ces bons chiffres de la French Tech, vous en faites partie avec Kinetics, puisque parmi les 8,4 milliards, il y a vos 11 millions à vous, levés au mois de mai dernier. Je pense qu'on est bien quand on est dans un environnement qui se porte bien, et on le rappelait, alors que d'autres pays sont en train de flancher un peu, les chiffres de levée de fonds restent très bons en France. Yacine Taï.
Effectivement, on fait partie de ce chiffre assez incroyable en France. Donc nous, on est une société qui avons été créée il y a exactement 2 ans. Donc cette semaine, on fête nos 2 ans au sein d'Entrepreneur First, où j'ai rencontré mon associé Henri pour lancer Kinetics.
Alors ça nous amène, on va venir plus en détail sur votre concept et votre aventure qui a donc tout juste 2 ans. Entrepreneur First, donc c'est un programme qui a été créé au Royaume-Uni, je le disais, oui, il y a une dizaine d'années. Vous en avez créé la branche France en 2018. C'est un programme d'accompagnement qui aide à quel moment les entrepreneurs et quelle est votre philosophie?
Oui, alors c'est un programme assez spécial qui a fait ses preuves, mais personne n'y croyait au début. C'est la seule structure en France qui investit directement dans des talents plutôt que dans des projets. Donc si vous regardez tous les fonds de capital risque, les incubateurs, les accélérateurs, ils vont venir accompagner ou investir dans des projets ou des équipes qui sont déjà existants. Nous, on mise sur des talents. Donc on va miser sur une sélection rigoureuse de talents ambitieux, de jeunes à haut potentiel qui ont envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas forcément de cofondateurs, d'idées, de projets ou de financement.
Et pendant 3 mois, qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une espèce de dating en fait entre des gens qui, comme vous, ont l'envie de créer, et c'est vous qui organisez finalement ce dating, hein, c'est bien cela?
Ouais, exactement. Donc très concrètement, comment ça se passe? On organise ce qu'on appelle des cohortes, 2 par an, en avril et en octobre de chaque année, une cinquantaine de personnes en général, de participants, la moitié qui ont un profil plutôt business, l'autre moitié qui a un profil plutôt technique, donc des CEO ou des CTO en puissance, et on va les aider à se rencontrer au sein du programme. Donc c'est un programme intense de 3 mois, entre des gens qui sont disponibles au même moment, au même endroit, à un instant T, et qui vont avoir envie de se lancer ensemble. Donc ils vont passer par des binômes différents potentiels au sein du programme. Ils peuvent essayer avec quelqu'un, travailler ensemble pendant 1 semaine, 2 semaines, voir ce que ça donne, voir s'ils sont productifs, voir s'ils arrivent à trouver une hypothèse d'un problème à résoudre sur lequel ils ont envie de travailler ensemble. Et si ça fonctionne pas, ils peuvent essayer avec quelqu'un d'autre.
Et puis ensuite, vous les lâchez dans la grande nature et l'aventure de l'entrepreneuriat, ou vous les accompagnez quand même?
Alors, on les accompagne quand même sur la durée. L'idée, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à ce qu'ils lèvent leur premier tour de seed. Donc, le premier tour de financement, qui est en général entre 1 et 2 millions d'euros. Nous, on les accompagne au quotidien. On a un coaching de nos venture partners, qui sont des anciens entrepreneurs qui ont monté leur boîte, revendu leur boîte, etc., qui sont en général investisseurs quasiment à temps plein maintenant, et qui vont les accompagner au quotidien jusqu'à...
Mais c'est quoi? C'est sur de la compta, c'est sur du business model, c'est sur du mental, c'est quoi ce coaching, cet accompagnement?
Alors, au tout début, ça va être sur des choses assez basiques comme la structuration de l'équipe, parce qu'on a affaire à des cofondateurs qui ne se connaissent pas encore quand ils rejoignent le programme. Ensuite, l'étape d'après, ça va être de trouver un problème à résoudre. Donc nous, plutôt que de partir d'une idée ou d'un produit, on veut vraiment mettre l'accent sur le fait que toute start-up doit répondre à un besoin, à un vrai besoin client. Et donc, on va aller encourager les entrepreneurs à parler aux plus de clients potentiels pour comprendre quels sont leurs problèmes et quelle valeur ajoutée ils pourraient leur apporter. Donc ça, c'est vraiment au tout début du programme, et au fur et à mesure que le programme avance, le contenu et les conseils qu'on va donner aux entrepreneurs vont devenir de plus en plus sophistiqués en fonction de ce qu'ils vont rencontrer sur leur chemin.
Être plus pragmatique et de plus en plus. Et qu'est-ce qui vous a plu quand il a candidaté dans la personnalité de Yacine? Vous vous êtes dit, tiens, c'est un bon candidat pour notre programme.
Ouais, alors Yacine, c'était un peu un des profils parfaits. Donc Yacine, il est diplômé de Sciences Po et d'HEC. Il avait à la fois ce double aspect conseil. Il était passé par un cabinet de conseil, et du coup il avait ce côté rigoureux, structuré qu'ont beaucoup de consultants. Et il avait aussi eu une première expérience dans le milieu entrepreneurial. Et donc il avait un peu ce double aspect très très commercial, très très ambitieux que lui avait apporté cette expérience plus entrepreneuriale, et le côté rigoureux, structuré du conseil.
Alors on va se replonger donc avec vous en 2020, donc c'est là que vous avez rencontré celui qui allait être votre cofondateur. Ça a matché immédiatement? Vous avez, comme on l'a dit, testé peut-être d'autres cofondateurs potentiels?
Alors moi, je dirais pas que c'était l'amour au premier regard, parce que on a
marié au premier regard.
Hein, marié au premier regard, exactement. Voilà. Non, on n'a pas été matché tout de suite. On est d'ailleurs, pour l'anecdote, une des dernières équipes à s'être mise ensemble, parce que j'ai testé d'autres couples. Henri, de sa part, il a testé d'autres expériences. Mais on continue à discuter ensemble en fait pendant tout le programme, et c'est notre passion commune en fait pour le jeu vidéo qui nous a poussé à la toute fin de se dire, bah allons, testons sur ce marché-là, contactons des studios de jeux vidéo et voyons comment on peut résoudre des problématiques pour ce secteur-là.
Et de là donc est né Kinetics. Alors quel est le concept de votre entreprise?
Alors Kinetics, nous permettons à tous les créateurs et utilisateurs des mondes virtuels de pouvoir s'exprimer dans ces mondes virtuels à travers leurs avatars. Donc on a développé des technologies d'animation 3D qui sont accessibles à tous via de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que concrètement, vous prenez votre téléphone portable, vous pouvez utiliser ou filmer n'importe quelle personne, et nous on va réussir à animer votre avatar avec ces mouvements-là, ce qui permet de rendre accessible en fait le fait de s'exprimer et de pouvoir créer des histoires interactives dans les mondes virtuels en 3D, et qui est un marché aujourd'hui qui est en train d'exploser mondialement.
Vous avez à l'heure actuelle 14 000 utilisateurs, c'est bien ça?
On a 30 000 utilisateurs maintenant,
30 000,
on a doublé.
sont très très
on fort. On a multiplié par 4 notre base d'utilisateurs ces derniers mois, donc on avance assez vite sur la croissance.
Et le modèle économique, est-ce que vous vous rémunérez? Je crois que vous êtes parti d'un modèle freemium, et en fait maintenant vous le faites évoluer pour avoir un mode de rémunération qui vous convient plus, évidemment.
Exactement, donc on est en train de transitionner vers un modèle qui va être basé sur les NFT. En étudiant en fait la cible sur laquelle on est en train de se positionner, on se rend compte que les créateurs aujourd'hui souffrent énormément du manque de revenus dans les mondes virtuels. C'est eux qui créent en fait la valeur de ces mondes virtuels et construisent du contenu, que ce soit sur Roblox, YouTube, etc. Donc ce qu'on appelle le Web 2. Et aujourd'hui, ils se rémunèrent très peu sur leur création. Et on est persuadé, en fait, on voit que c'est un modèle d'avenir où tous ces créateurs, via les NFT, vont pouvoir se rémunérer en ayant un ownership, une propriété intellectuelle sur leurs assets. Et nous, on veut se positionner vraiment comme partenaire de ces créateurs en leur disant, venez sur notre plateforme, créez ce que vous voulez. Une fois que vous faites cette création, elle sera exportée sous forme de NFT, où nous, Kinetics, on aura un ownership et on récupérera 5%
voilà, c'est ça,
des royalties sur la production de ces contenus-là.
Et ça, c'est en place déjà ou ça va se mettre en place?
On est en cours de développement, justement. La levée nous a permis aussi de renforcer nos équipes et de pouvoir développer développer à la fois la partie NFT et marketplace qu'on livrera d'ici les 2-3 prochains mois.
Je reviens donc à ce modèle d'entrepreneur first avec une actualité, c'est une levée de 150 millions de dollars, 150 millions d'euros, 158 millions de dollars. Exactement. Au niveau monde. Il y a combien de branches d'entrepreneur first au niveau du monde et est-ce que la France va bénéficier de cette manne de 150 millions d'euros?
Oui, alors complètement. Donc on a annoncé notre série C de 150 millions d'euros qui a été menée par des investisseurs et des entrepreneurs de la Silicon Valley qui croient dans notre modèle et qui croient dans notre capacité à mettre le pied à l'étrier de jeunes talents dans des écosystèmes en dehors de la Silicon Valley. Donc c'est des entrepreneurs qui ont réussi dans la Silicon Valley, comme les fondateurs de Stripe, le fondateur de LinkedIn, qui ont investi dans Entrepreneur First parce qu'ils croient dans notre capacité à mettre le pied à l'étrier à ces talents.
Et les retombées France alors ?
Alors les retombées France, elles vont être très importantes. On a 6 bureaux dans le monde aujourd'hui, 3 en Europe, 2 en Asie, 1 en Amérique du Nord. Bien sûr, l'idée, c'est de continuer à investir dans des centaines d'entrepreneurs en France pour leur permettre de trouver un cofondateur, de générer une idée et de lancer leur start-up de zéro.
Je le disais, la branche France a 4 ans, créée en 2018. Quelques noms, peut-être quelques entreprises qui ont marqué ces 4 premières années d'entrepreneur First France.
Oui, bah alors au-delà de Kinetics.
Au-delà, bien sûr, de Kinetics.
Qui m'accompagne aujourd'hui. On a des start-ups comme Lavie, qui fait du bacon et des lardons végétaux. On a une start-up comme Corbiogenesis, par exemple, qui est une plateforme de bioproduction de thérapie cellulaire. On a investi dans une ou deux startups qui font des plantes génétiquement modifiées. Donc Néoplantes, par exemple, qui permet de démultiplier les capacités d'absorption des polluants de l'air par les plantes.
Donc on n'est pas que dans le métavers et les mondes virtuels, il y a du monde bien réel aussi.
Aussi.
Il y a 2 sessions, vous l'avez dit, donc en avril et au mois d'octobre. Pour candidater sur celle d'octobre, est-ce qu'il est encore temps cette fin du mois de juillet?
Alors il est encore temps de candidater pour notre cohorte d'octobre qui commencera le 3 octobre prochain. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à fin août pour des potentiels CEO, des potentiels CTO pour créer la prochaine génération de leaders technologiques français.
Tous les renseignements sur votre site.
Exactement.
Absolument. Et donc, si on fait un petit peu le bilan de ces deux ans, est-ce que vous diriez que l'apport, l'appui, l'accompagnement d'Entrepreneur First, ça a été le coup de boost décisif, ça a été une des aides, parce que je crois que vous avez d'autres aides aussi, indispensables à votre vie de jeune entrepreneur?
Je dirais que déjà, sans Entrepreneur First, on ne se serait pas rencontré avec Henri, donc cette histoire ne serait jamais en fait née. Donc c'est la beauté en fait de ce modèle-là. Et ensuite, Entrepreneur First nous a permis aussi d'être financé très tôt sur une technologie où nous on était quand même en avance de phase. À l'époque, quand on parlait de Metaverse en 2020, personne comprenait ce que c'était que le Metaverse. Donc Entrepreneur First, c'est là aussi pour prendre des paris qui sont sur du plus long terme, ce qui nous a permis d'avoir des premiers fonds et rassurer aussi d'autres investisseurs, ce qui a permis en fait de lancer la balle. Et depuis ensuite, enfin de fil en aiguille, on a pu avoir notamment des subventions publiques, donc la BPI nous a quand même pas mal aidé. On a gagné des prix comme iLab, ministère de la Recherche, qui nous a permis aussi de nous financer et qui nous a permis ensuite d'aller à l'international pour faire la dernière levée de fonds qui a été mené notamment par des investisseurs étrangers et des mondes virtuels comme The Sandbox qui est fondé notamment par des Français.
Eh bien, longue vie, on fête le 2e anniversaire de Kinetics, on sera là, on l'espère, pour les futurs et nombreux anniversaires de votre entreprise. Et bravo donc à Entrepreneur First également pour tout son travail pour l'aide des startups que l'on reçoit régulièrement dans cette émission. Merci à tous les deux. Et à présent, donc, on a beaucoup parlé de monde virtuel, on va vraiment retourner dans un monde bien réel, un monde 100% ancré dans la terre, la belle terre des Cévennes. Nous sommes en duplex de Générargue dans le Gard, c'est là que se trouve la célèbre bambouserie d'Anduze, dont le nom officiel est la bambouserie en Cévennes. Et bonjour donc Valentine Crouzet.
Bonjour.
Vous êtes la directrice commerciale du site et bientôt plus que cela, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord un peu d'histoire, je le disais donc en titre, le site a été créé en 1856 par Eugène Mazel. Donc vraiment plus d'un siècle et demi sur ce site. Rappelez-nous les grandes phases de cette histoire de la bambouserie.
Alors, la bambouserie a été créée par Eugène Mazel, comme vous le disiez, en 1856. Il a entrepris beaucoup de travaux pour justement faire que la bambouserie soit ce lieu extraordinaire qu'on connaît aujourd'hui, en pouvant ramener des quatre coins du monde des végétaux tels que les bambous, bien évidemment, mais aussi Ginkgo biloba, Magnolia grandiflora, Sequoia de Californie, qui font aujourd'hui que ce lieu est extraordinaire de par sa diversité végétale et tout le travail qui a été accompli pendant des années et des années depuis 1856.
Et donc il y a une étape importante en 1902, c'est votre arrière-grand-père, hein, c'est bien cela, Gaston Nègre qui a repris les rênes.
C'est ça. En 1902, Gaston Nègre a repris la bambouserie. Pour la petite anecdote, en fait, il a acheté le domaine aux enchères à la bougie, comme ça pouvait se faire à cette époque-là. Et puis, depuis, ça a été transmis de génération en génération. Et je suis aujourd'hui la quatrième génération à travailler dans ce site extraordinaire, tous les jours au quotidien avec une équipe extraordinaire, que ce soit la partie jardinier pour l'entretien, mais aussi l'accueil du public, les guides et la partie administrative par rapport au business, bien évidemment.
Et le nombre de salariés à l'heure actuelle, les salariés permanents?
Alors, les permanents, on est 25 permanents à travailler tout au long de l'année. Et en pic de saison, on va dire en juillet-août, on est jusqu'à 45 collaborateurs.
Alors, puisqu'on est sur les chiffres clés, le chiffre d'affaires de 2021, et quels sont les objectifs chaque année, et notamment donc en 2022, qui marque le retour, on va dire, une année normale après deux années marquées par la pandémie, les objectifs donc en termes de fréquentation pour cette année 2022?
Alors, cette année, on espère atteindre les 250 000 visiteurs. Pour vous donner un comparatif, en 2021, qui était une année bien évidemment très spéciale avec le Covid et une ouverture très tardive, on était aux alentours de 198 000 visiteurs.
Et donc, le chiffre d'affaires 2021, et est-ce qu'un site comme celui-là, avec les difficultés et tout ce qui est inhérent, bien sûr, à la fois au climat et depuis deux ans à la pandémie, est-ce que le site est rentable?
Oui, le site est tout à fait rentable. Il faut que chaque année, on fasse preuve de nouveauté aussi par rapport à nos visiteurs pour faire revenir les Gardois déjà à la bambouserie et aussi les touristes qui viennent de toute la France, mais aussi on a la chance d'avoir des touristes venant d'Europe. Donc chaque année, on essaie de pouvoir leur offrir quelque chose de différent avec beaucoup d'événements. On travaille avec Itinérance, le festival du film, pour faire des cinémas en plein air, mais également la culture avec des artistes qui viennent travailler le bambou, une exposition qui s'appelle Arrêt Nature. Et également aussi, ce qu'on s'efforce de faire, c'est chaque année de pouvoir proposer des ateliers aux individus, mais aussi aux groupes, sur la découverte de la biodiversité et la protection de la nature.
Un mot aussi sur les diversifications, puisque donc votre chiffre d'affaires, il provient essentiellement bien sûr des entrées, du nombre de visiteurs, mais il y a aussi il y a un restaurant, il y a une boutique. Est-ce que vous êtes intéressé sur ces deux choses? Vous les licenciez? Comment se passe cette partie de diversification?
Alors effectivement, on vit de nos visiteurs. Pour vous donner un ratio, on est à 60% de chiffre d'affaires sur la billetterie et le reste provient de notre snack, de nos deux boutiques et de la jardinerie.
Un mot sur la transmission. Donc on va écouter votre maman Muriel Nègre dans quelques instants. C'est vous qui allez reprendre la suite. J'imagine qu'il y a un poids familial important bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez en quelques mots insuffler à ce qui sera donc votre prise de contrôle d'ici quand d'ailleurs, d'ici combien de temps?
Alors d'ici quelques mois ou années, Muriel pourra échanger avec vous par rapport à ça. On le fait en douceur et avec les équipes. Donc on n'a pas mis de date butoir aujourd'hui pour pouvoir le faire en douceur et que ce soit accompagné de façon pérenne.
Eh bien,
la vision juste qu'on a, c'est vraiment de pouvoir transmettre à tous nos visiteurs, que ce soit les groupes ou les individuels, la protection de la nature, de la biodiversité, de cet écosystème qui est indispensable à chacun d'entre nous.
Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Je vais vous laisser transmettre les écouteurs à votre maman, donc Muriel Nègre. Merci beaucoup, Valentine Crozet, d'avoir été en duplex depuis la bambouserie d'Anduze, ce magnifique cadre. Donc, je vais vous laisser faire la transmission. Et bonjour, Madame Nègre.
Bonjour.
Merci d'être en duplex, toujours donc depuis Générargues dans le Gard, de la Bambouserie, donc en Cévennes, c'est le nom officiel. On vient de parler donc avec votre fille Valentine de la transmission dans quelques mois, dans quelques années. Vous-même, je crois qu'il y a presque 45 ans que vous travaillez à différents postes, évidemment, au sein de ce site qui avait été créé par votre grand-père.
Bien 45 ans que je suis là au quotidien et encore plus d'années que je ne me lasse pas de la bambouserie parce que je trouve que c'est toujours aussi beau et il y a toujours quelque chose à y faire.
Qu'est-ce que ça vous fait de devoir passer la main? Parce qu'évidemment, c'était un pan très important de votre vie, de votre famille. Comment se passe la transmission? C'est un point qui nous intéresse. Est-ce que c'était pour vous indispensable que la bambouseraie reste dans le cercle familial et donc dans votre famille?
Très important, puisque ça me vient de mon grand-père, comme Valentine l'a expliqué, depuis 1902, mon grand-père, mes parents, mon père, et puis quand il est décédé, ma mère. Et donc, je trouve que cet immense cadeau qu'ils m'ont fait, c'est normal que je le restitue et que je le prolonge à ma fille Valentine.
Un mot enfin, voilà, de l'écosystème, on va dire, économique dans les Cévennes. On sait que c'est une région qui n'est pas toujours très facile d'accès, notamment. Mais on sent bien aussi, on le montre dans cette émission, qu'il y a une volonté de créer des entreprises qui fonctionnent. On a parlé ces derniers mois des jeans Tuféry, c'est côté Lozère. On a parlé des cosmétiques Bellessa, c'est côté Hérault et côté Gare aussi. Est-ce que vous sentez, malgré, encore une fois, parfois ce qu'on appelle l'éloignement géographique des Cévennes, une volonté que ce territoire très particulier s'en sorte économiquement?
Tout à fait. D'abord, ce territoire, je trouve, tire bien son épingle du jeu. Et comme vous avez nommé, il y a des pépites chez nous, dans divers domaines d'activité, qui animent notre territoire. Oui, les Cévennes sont vivantes et les Cévennes travaillent.
Eh bien, écoutez, c'est sur ce joli mot de la fin que je vais vous souhaiter un très bel été. Bel été donc à la Bambouseraie. Je pense que vous avez beaucoup de travail, il y a beaucoup de visiteurs. Il fait beau, il fait chaud dans le Gard, donc bravo à toutes les deux et longue vie donc à la Bambouseraie en Cévennes sur la commune de Générargues. Voilà, donc c'est la fin de cette émission, c'est la toute dernière émission de la saison. On se retrouve pour des best-of tout au long du mois d'août sur BFM Business chaque week-end, et puis la reprise de la saison 7, puisqu'il y aura une saison 7 de La France a tout pour réussir, ce sera le premier week-end de septembre, une émission qui sera enregistrée quelques jours plus tôt à l'Hippodrome de Longchamp pour la traditionnelle REF, la rencontre des entrepreneurs de France, puisque BFM Business est partenaire de cet événement. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve donc en septembre. À très vite sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.